Écoutez, vous disiez que vous étiez un pacifiste et que vous l'êtes encore.
Absolument,
Mais
oui.
comment concilier ça avec le fait que vous ayez vanté l'armée allemande, par exemple?
L'armée allemande, je la vantais avant qu'elle pénètre en France et fasse la guerre. Je trouve qu'elle était un bon moyen d'être une force. La Suisse a une armée, et la principauté de Monaco a une armée. Le glaive, évidemment, c'est la force, n'est-ce pas? C'est l'ordre. Et alors, l'ordre, maintenant, il n'y a plus de force nulle part. Alors, on ne peut pas le maintenir. Puisque si on s'adresse en français, je pourrais leur dire que s'il y avait toujours une armée allemande et si on n'avait pas déclaré la guerre, et si l'Allemagne était ce qu'elle était, eh bien, ils auraient conservé l'Algérie sans mal, ils n'auraient pas perdu le canal de Suez ni l'Indochine. Ils ont introduit le désordre en démolissant une structure, de même qu'on a démoli les Habsbourg, on a remplacé par rien, n'est-ce
Mais vous
pas?
croyez que l'impérialisme allemand n'était pas aussi un agent capable de démolir des structures et de faire perdre à la France sa primauté?
Je crois qu'on pouvait, à mon avis, je crois qu'on pouvait très bien négocier avec les Allemands avantageusement, à savoir que nous avions encore sur eux du prestige. Ils se souvenaient de la tripotée de 18 et ils en gardaient un très beau respect. Vous savez, pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu de prestige que de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de celle qu'on va gagner. Espérons. Ainsi qu'un doyen, un président de l'Académie de médecine, à l'âge de 80 ans, avait fait le tour du monde. Il s'était mis à faire le tour du monde. Et avec sa gouvernante. En revenant, elle a dit, oh, il n'y a pas de valeur spirituelle ni artistique, tout ça n'existe pas. Il y a simplement deux choses qui comptent, le prestige de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de la guerre que l'on vous prête à gagner. Et c'est tout. Par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre 18. Il fallait conserver ce prestige à toute force, n'importe quel moment, ne pas le mettre en péril, ne pas le mettre sur la table, ce prestige, n'est-ce pas? C'est ça que je voyais, et que je vois encore, d'ailleurs. On conservait le petit poilu, 18, Verdun, ça comptait énormément, ça comptait beaucoup. Et alors, on ne nous attaquait pas, personne ne bougeait. Le Suez ne bougeait pas. Suez ne bougeait pas, l'Indochine ne bougeait pas, l'Algérie ne bougeait pas, le Maroc ni la Tunisie, tout le monde restait en place. Ça, il suffisait de simplement d'envoyer un bataillon de la Légion, régler tout. Tandis que maintenant, pardon, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont appris que nous étions faibles. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais beaucoup ménagé les faibles, qu'on ait dit ou non. C'est là que je voyais l'armée allemande utile, le gendarme allemand.
Oui.
Voilà, c'est tout. C'était simplement ça. Je me suis peut-être trompé, moi je ne demande pas, mais je ne discute pas. Moi je suis au bout du rouleau.
On pourrait quand même s'étonner d'une chose, Monsieur Céline, c'est que au moment où les événements ont tourné, ou autrement dit, où les puissances de l'Axe ont commencé de ne plus avoir le vent en poupe, vous ayez persévéré. Est-ce que c'était pour vous une question d'honnêteté ou de conscience? Expliquez-moi un peu.
Monsieur,
ça.
Je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement comme écrivain. Je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout, n'est-ce pas? Jamais je n'ai touché rien, pas un sou de personne, ni américain, ni anglais, ni allemand, ni suisse, ni rien du tout. Donc je n'ai vécu que de mes droits d'auteur, et très misérablement. Et c'est tout. Quand ils ont persisté, ou pas persisté, après Stalingrad, disons le mot, il y a eu des virages byzantins, n'est-ce pas? Tout le monde s'est accroché, est devenu anti-allemand. Bon, je n'avais pas été ni anti-allemand, ni anti-ceci. Pendant toute la guerre, les Allemands sont venus me voir et m'ont toujours dit, nous allons gagner, nous avons la victoire. Mais je dis, donnez-moi des preuves, quelque chose, je ne vois pas du tout. Et ils m'ont jamais apporté de preuves, la preuve c'est ce qu'ils ont perdu. Je n'ai jamais été Je n'ai jamais voulu que la paix, n'est-ce pas? Quand ils sont entrés en France, ben, je n'étais pas partisan. Je n'ai jamais dit « Hurrah, vive les Boches !» ça m'amusait pas, comme les autres. Ils ont été assez stupides, Hitler en particulier, pour ne pas faire la paix à temps, de même que nous avons fait la paix trop tard en 18, nous aurions dû la faire en 15 ou en 16, de même eux se sont acharnés, ou plutôt Hitler s'est acharné dans les batailles qui étaient la fin de l'Allemagne, n'est-ce pas, toujours dans ce principe absurde de guerre, n'est-ce pas. Tout est là, n'est-ce pas? Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et a conservé ses colonies. Oui. Mais c'est tout. Eh ben, qu'on prouve le contraire, c'est tout ce
que
je veux
dire. Non, mais ce que je voulais dire par ma question tout à l'heure, c'était ceci. Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simia?
Ah, oh, pour la question très simple, qu'à Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné soit l'Institut Nanterre, soit la Villa Saïd. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. On m'a tout volé. Bon, c'est entendu, c'est une petite misère. On m'a tout pris, oui. On m'a foutu en prison là-bas au Danemark. J'ai fait 2 ans de réclusion. Bien. Tout ça, c'est banal. Mais absolument, je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux, mais mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas? Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas? On n'a pas à lui dire, dites-nous, mais non, tandis que si la femme est professionnelle, elle prend le client, n'est-ce pas? Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas? Oui, oui, voilà le petit côté de l'histoire, mais ils sont très difficiles. En ce moment-ci, on les explique mal, parce que le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, mais qu'il a fait ça, si qu'il avait un intérêt, mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel, je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, ils n'en valent certainement pas la peine. Et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah ben, c'est une chose qu'ils ne conçoivent même pas. Ça leur est pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis femme du monde, je suis gratuite, n'est-ce pas? Pardon, c'est tout, c'est tout. Et alors, on m'insulte énormément en me disant, pourquoi, quel avantage? Mais je n'ai pas d'avantage, je n'ai jamais dit, par ici, je suis le chef d'un parti, je ne suis pas homme politique, je ne suis pas acteur, je suis simplement, j'étais, je crois, écrivain et médecin. Je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une effroyable aventure où je n'ai reçu que des coups et des horreurs. Et puis c'est tout, n'est-ce pas? Le reste m'est égal. En ce moment-ci, les gens qui me harcèlent parce que je suis ceci, cela, mais ils m'embêtent, n'est-ce pas? Je n'ai pas à être ceci, cela. On ne demande pas à une femme quelconque si elle veut le blond, le brun, le noir, le rouge. Elle dit, celui-ci me plaît, il ne me plaît plus, et zut, il est alcoolique, il est fou. Elle a parfaitement le droit. C'est tout, n'est-ce pas? Oui. Je veux quitter ce terrain des questions qui me concernent, qui sont malgré tout sans importance, parce que tout ça s'efface en quelques années. Comme disait la sœur de Marat, auquel on disait, dites donc, votre frère, hein, c'était un rude cochon, hein, ce qu'il en a fait, les cochonneries, là, ah, le dégoûtant. Elle disait, oh, ce sont la turpitudes humaines qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas? Et alors, tout ça, c'est vraiment turpitudes humaines qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas? Donc, c'est secondaire. Mais il y a une chose peut-être qui peut peut-être vous intéresser, je le regrette, appuie aussi mon petit point de vue. C'est celui de la situation des blocs humains, des zones humaines, n'est-ce pas? Il est évident que la France était la première nation du monde quand elle avait 25 millions d'habitants sous Louis XIV, et elle donnait la loi au monde. Quand Louis XIV avait une indisposition, tout le monde était inquiet. Mais maintenant, elle n'est plus rien en natalité, en nombre, n'est-ce pas? Elle est 40 millions en face de blocs qui ont des milliards, n'est-ce pas? Ce sont des milliards dont on parle maintenant. Alors on ne peut pas... Déjà, autant d'Hitler, Hitler, la grosse gaffe d'Hitler, n'est-ce pas, c'est qu'il a parlé alors qu'il avait 80 millions d'hommes derrière lui. Il aurait eu 400 millions d'hommes derrière lui, il aurait gagné. C'est évident. Et c'est une question de nombre. Alors, vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Alors, en ce moment-ci, on parle, n'est-ce pas, dans une petite Europe toute petite, n'est-ce pas. La France est devenue les Deux-Sèvres, sans s'en apercevoir. Elle est devenue pas plus importante que la Drôme ou l'Ariège, n'est-ce pas.
Oui, mais vous savez tout de même que la puissance d'une nation ne se mesure pas qu'au nombre de ses habitants.
Ah, si elle a ses ressources matérielles, elle les a pas non plus. Alors elle n'a pas à parler, n'est-ce pas. Napoléon, qui n'était pas si sourd qu'on veut le dire, disait « La Chine est un géant qui dort. Quand il bougera le petit doigt, il fera trembler le monde. » Nous sommes à l'époque où le géant remue le petit doigt, n'est-ce pas. Et j'ai bien peur qu'il fasse trembler le monde, n'est-ce pas.
Mais alors, quel avenir voyez-vous à votre pays?
Ah, je ne lui vois pas plus d'avenir qu'au Danemark, à la Hollande, et moins qu'à la Suisse, qui a une habitude de ces situations-là. C'est un pays qui continue à parler, je vous dis, comme sous Louis XIV, alors qu'il est devenu les Deux-Sèvres, hein, n'est-ce pas, ça n'a pas. Ce qu'il dit n'a aucune importance. Il n'a plus de souveraineté, ce qui est grave. Il prend sa souveraineté soit en Russie, soit en Amérique. De lui-même, il ne peut rien dire, l'affaire de Suez le prouve, n'est-ce pas. Il n'a plus de souveraineté, on lui a enlevé sa souveraineté. Il est forcé de la prendre où on lui prête, n'est-ce pas. Ce qui ne se serait, d'ailleurs, ce que je dis, ce qui ne se serait pas passé si c'était uni avec l'Allemagne. C'est ce qu'il cherche en ce moment-ci. Il cherche la France européenne, il la fout en ce moment-ci, ils essayent, mais l'histoire ne repasse pas les plats, il n'y a rien à faire. Alors, c'est fini, parce que les autres grimpent en natalité tout le temps. Ils ont une force écrasante de dynamisme, et nous, mon Dieu, nous restons dans notre petit emploi, n'est-ce pas? Pas plus important que les deux sèvres. Je vois pas, ça va, on raconte des histoires, mais non. Alors, par conséquent, voilà.
Et en ce qui vous concerne, vous, comment voyez-vous l'avenir? Une phrase de votre ouvrage m'a beaucoup effrayé. Je veux bien que votre ouvrage, vous l'avez intitulé « Roman ». Mais enfin, ce mot ne m'arrête pas trop, parce qu'il est tellement vous-même, il y a tellement de vous-même dans ce roman. Or, à la page 35 exactement, vous annoncez votre suicide et vous précisez même dans la cave et à la carabine.
Et ceci pourrait fort bien arriver. C'est une question vraiment que j'envisage assez calmement. C'est pourquoi? Parce que c'est une question de gaz, d'électricité, d'haricots, je mange très peu, je bois de l'eau depuis toujours, je ne fume pas. Je bois de l'eau, l'ascétisme m'est naturel, n'est-ce pas? Dieu sait pourtant si j'ai vécu toute ma vie au milieu de tout ce qu'on peut imaginer. Mais je suis voyeur, n'est-ce pas? Je ne suis pas exhibitionniste. Et il y a deux races d'hommes au fond, les voyeurs et les exhibitionnistes. Moi, je suis voyeur, n'est-ce pas? Et donc je me contente de regarder. Je ne consomme pas, n'est-ce pas? Je ne consomme pas du tout. Alors, mais tout de même en consommant très peu, la vie coûte très cher. Alors, si la vie augmente beaucoup, ben, mes ressources n'augmentant pas beaucoup, évidemment, où il peut m'arriver une grave maladie. Il y a des gens qui peuvent vivre avec une grave maladie, moi pas. Je connais, j'ai bien des amis qui sont cancéreux, qui sont tubercules, qui sont... Moi, je trouverais plus naturel de m'en aller. Ça ne me coûtera pas tellement, vous savez. Je m'en irais. J'accompagnerais ceux qui sont morts, c'est tout. Oui.
Se suicider suppose pas mal de mépris de soi-même. On a dit, Céline, que vous méprisiez les hommes. Est-ce que ce mépris des hommes, si c'est vrai, irait jusqu'au mépris de vous-même?
On m'a dit mieux ça, l'ennemi du genre humain, hein. C'est une nouvelle façon de me traiter. Je suis l'ennemi du genre humain. Je suis un génocide platonique, n'est-ce pas? Je suis génocide verbal, platonique, je sais pas, on ne sait plus quoi trouver. Bon. Alors, c'est pas important, ce sont la turpitude humaine qu'un peu de sable efface. Je copie la sœur de Mara. Et tout ça est sans importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est évidemment de payer, comme vous l'avez vu, l'épicier, n'est-ce pas, qui est bien gentil, mais enfin, il est là. Et puis arriver, m'en aller, si possible sans douleur, j'y tiens pas tant que ça, n'est-ce pas. Enfin, je connais les moyens, vraiment, d'en finir.
Mais vous voulez dire par là que vous songez à l'idée de votre mort,
vous
êtes résigné à cette idée?
Oh, tranquillement, le plus paisiblement du monde. Et vraiment, Je manie la, vous savez, la phraséologie, la rhétorique, si l'on veut, comme ça pour gagner ma vie et celle de ma femme. Mais mon Dieu, le jour où les forces disparaîtront complètement, je me trouverai incapable de subvenir à mes besoins. Ben, évidemment, oui. Je ne serai pas le seul à m'en aller. C'est pas une nouveauté.
Quel mot voudriez-vous prononcer? Quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître?
Ils étaient lourds. Voilà ce que je pense, oui. En pensant, les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas? Ils sont lourds et épais. Voilà ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Plus que méchants et bêtes, en plus. Mais ils sont surtout lourds et épais.
Et vous avez essayé d'être léger?
Oh, j'ai pas besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'essayer. Je suis le fils d'une réparatrice de dentelle ancienne. Je me trouve à avoir une collection assez rare, une seule chose qui me reste. Et je suis peut-être un des rares hommes qui sait différencier la Baptiste de la Valencienne et la Valencienne du Bruges, le Bruges de l'Alençon. Je connais très bien les finesses, très très bien. Et je n'ai pas besoin d'être éduqué, je le sais. Et je sais également la beauté des femmes comme celle des animaux. Très bien, très très bien. Je suis expert en ceci. Mais pour être expert en ceci, il faut vraiment s'en occuper. C'est dans son laboratoire intime qu'on s'occupe de ces choses-là. Et je le répète, je trouve sur tous les jours énormément lourd. Je les trouve lourds. C'est surtout ça que je trouverais. Dieu qu'ils étaient lourds. Voilà tout ce qu'ils me font comme effet. Surtout quand ils s'imaginent d'être malins. C'est encore pire. C'est tout ce que je vois.